soir, la province du Haut-Katanga connaît depuis mi-juillet une flambée des cas de COVID-19, a indiqué la semaine dernière le ministre provincial de la Santé. Selon Joseph Sambi, la province enregistre en moyenne 50 cas de COVID-19 par jour. Les hôpitaux, tant publics que privés de Lubumbashi, sont bondés des malades. Les salles de réanimation ne parviennent plus à contenir tous les malades qui sont pour la plupart sous assistance respiratoire et l'oxygène à usage médical devient rare. Le ministre de la Santé de cette province relève aussi que les cas de décès deviennent de plus en plus nombreux et les morgues sont pleines. La situation est presque similaire au Nord Kivu, dans le Lualaba, au Kasaï central et dans beaucoup d'autres provinces de la RDC. Pendant ce temps, le ministre de la Santé du gouvernement central note une baisse sensible des cas de COVID-19 à Kinshasa. Comment analyser cette évolution de la troisième vague de COVID-19 en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 11 août 2021. Participe au débat Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
Professeur Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé de la province du Haut-Katanga. Monsieur le ministre provincial, bonsoir.
Bonsoir, madame le journaliste.
Et Emmanuel Bitangalo, secrétaire exécutif provincial de la Société civile Santé du Nord Kivu, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci aussi à tous ces auditeurs qui sont très très nombreux à nous envoyer leurs réactions par rapport au sujet de ce soir. C'est le cas de Crispin Bokungu depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. À mon humble avis, je pense que l'évolution est encourageante à Kinshasa et déplorable au niveau des provinces où nous remarquons une négligence de la population qui ne respecte pas totalement les gestes barrières, croyant que c'est une maladie de Kinshasa et des étrangers. Je conseillerai aux autorités, surtout provinciales, de bien veiller au respect des gestes barrières, surtout les contrôles stricts des voyageurs. La sensibilisation doit également être continuelle pour barrer cette ignorance que nous avons au Congo et essayer de stabiliser cette troisième vague à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Vous nous suivez sur la 95.8 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, il s'observe une flambée considérable des nouveaux cas de Covid dans certaines provinces de la RDC, alors que dans la capitale Kinshasa, qui était l'épicentre de la pandémie, les cas ont baissé sensiblement. Pour faire face à cette situation, dans la province du Haut-Katanga par exemple, les autorités provinciales ont pris des mesures contraignantes des luttes contre le coronavirus depuis le week-end dernier. Les contrevenants s'exposent au paiement des amendes, à l'incarcération pour une durée de 7 jours. Jean Gandou nous en dit plus.
À Lubumbashi, le coronavirus fait des ravages. Le cimetière de Kasangiri, le plus cher de la ville, a enregistré pour le mois de juillet dernier plus de 250 corps. Que dire alors de ceux considérés comme étant le moins cher, se demande le responsable des services d'inhumation à la mairie de Lubumbashi. Et la plupart des décès sont dus au coronavirus, signale les sources médicales. Et pour y faire face, le maire de Lubumbashi a, dans un communiqué rendu public le week-end dernier, pris un certain nombre de mesures, notamment le port correct et obligatoire des cache-nez, la fermeture des salles de fête qui accueillent les cérémonies de mariage et autres. Le non-port des masques est désormais sanctionné par le paiement d'une amende de 15 000 francs congolais. En cas de résistance, le contrevenant pourra être arrêté pour une durée de 7 jours. Justicia Esbel, une ONG de défense des droits de l'homme, estime que la peine d'emprisonnement de 7 jours telle qu'est préconisée par la mairie de Lubumbashi n'est pas conforme à la loi. Maître Jonas Mulumba, un des cadres de cette ONG.
Donc il faut préalablement qu'il y ait une loi pour qu'on puisse considérer qu'un acte X est un acte infractionnel. Et le non-port de masque, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas constitutif d'une infraction. Donc le maire de la ville, il devait se limiter uniquement aux amendes transactionnelles pour tout celui-là qui sera trouvé sans masque.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou pour ce reportage. Docteur Jean-Jacques Bungani, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique du gouvernement central. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique cette baisse sensible des cas Covid dans la capitale Kinshasa, Kinshasa qui était considéré comme l'épicentre de la pandémie, alors qu'aujourd'hui, ce sont plutôt certaines provinces qui enregistrent une flambée vraiment impressionnante des nouveaux cas Covid.
Merci d'abord. Je tiens à remercier Radio Okapi pour l'intérêt de nous avoir conviés à cet échange. Malgré que j'ai de nombreuses occupations, j'ai prévenu que je vais commencer une réunion dans quelques minutes, mais je vais quand même donner le point de vue du gouvernement. Nous sommes, comme vous le savez, à la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays depuis le 13 mai de cette année. Nous avons remarqué que lors de la première vague, tout au début, nous avions une moyenne de 500 cas par semaine. À la deuxième vague, autour d'octobre, novembre, décembre, nous sommes passés à 750 cas par semaine. Mais au mois de mai 2021, avril-mai, nous avons atteint la moyenne de 2000 à 2500 cas par semaine. Raison pour laquelle nous avons, au 3 juin, annoncé publiquement la troisième vague de la pandémie. L'équipe de surveillance, qui fait des tests tant au niveau interne qu'au niveau des entrées sur le territoire, avait remarqué l'introduction du variant Delta le 21 avril de cette année, également une confirmation le 2 mai lors d'un séquençage de routine dans une communauté cible dans la ville province de Kinshasa. En ce moment-là, comme vous le savez, le variant Delta, beaucoup plus dangereux, circulant plus rapidement, a attiré l'intérêt du gouvernement et nous avons pris des mesures pour diminuer la circulation finalement des personnes qui a sur la circulation du virus. Depuis la fin du mois de juin, début juillet, en troisième semaine, en quatrième semaine épidémiologique de l'année, nous avons vu une baisse sensible des cas Covid sur toute l'étendue du territoire, mais surtout au niveau de Kinshasa, qui était l'épicentre. Au départ, à 71,5% des cas Covid sur le territoire, puis maintenant diminué autour de 60%, 65% des cas Covid sur toute l'étendue du territoire. Mais conséquemment, à la baisse au niveau de la capitale, nous avons vu une hausse au niveau des quelques provinces. Vous avez cité le Haut-Katanga, le Malaba, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et d'autres d'ailleurs. Ça retient notre attention, mais les spécialistes de la riposte avec qui nous échangeons régulièrement nous préviennent également que c'est la tendance depuis la première vague, la deuxième vague et la troisième vague que nous prenons ce qu'on appelle les deux semaines épidémiologiques qui suivent la crise à Kinshasa pour évaluer au niveau des provinces. Et régulièrement, quand ça baisse au niveau de la capitale, ça monte dans les provinces. Mais nous devons suivre cela de près parce que nous nous attendons également à une baisse au niveau des provinces. Et cette baisse, elle va se manifester également par les différentes mesures qui sont prises par les autorités locales. C'est vrai, ça peut être des mesures qui peuvent être contestées au niveau du droit, comme vous venez de le dire, mais ça a pour avantage de contraindre la population à respecter les mesures barrières, à faire attention au port correct et régulier des masques, à l'usage fréquent des gels alcooliques et aux autres mesures qui s'en suivent. Alors, donc, ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que ce qui se passe en province, c'est vrai, totalement vrai, les chiffres nous sont connus avec des hausses à Lubumbashi, une difficulté de la prise en charge, une difficulté d'approvisionnement en oxygène parce que la plupart des structures privées, mais ce sont des situations que nous connaissons au niveau de la capitale et l'équipe de la riposte, et l'OMS d'ailleurs, et le MSF avec qui j'ai une réunion hier, nous nous activons tant au niveau du gouvernement que des partenaires pour appuyer les provinces en difficulté. Ça se passera à Lubumbashi, ça se passe à Bukavu également, à Goma, à Butembo et à Beni. Le gouvernement a demandé des unités d'oxygène, de production d'oxygène, qui seront dans les jours à venir livrées pour soulager les structures publiques qui prennent en charge les populations en détresse.
Alors, dans les Kasaï centrales aussi, cette flambée s'observe. Est-ce que la province aussi est concernée par les mesures?
Il s'agit du Kasaï central et même du Kasaï. À Kananga, il y a des cas qui nous ont été relevés, des cas qui sont en train de monter en nombre, et dans toutes les provinces que vous avez citées, madame, nous appuyons les divisions provinciales de santé, qui s'appellent les DPS, avec l'équipe de la riposte envoie des personnes pour appuyer ces unités de manière à prendre en charge les cas qui sont détectés positifs. En intrant, c'est-à-dire en moyen diagnostique, et en intrant médicamenteux, en moyen traitement également.
Monsieur le ministre, plusieurs observateurs dénoncent le fait qu'il n'y a pas de suivi des mesures prises par le gouvernement. Lorsqu'on remarque qu'il y a une baisse, les autorités ont tendance à ne plus faire le suivi des mesures prises pour maîtriser cette pandémie dans le pays.
Oui, d'abord, il faut savoir que le coronavirus est vu au niveau de la République démocratique du Congo comme dans beaucoup de pays, comme une maladie d'importation. C'est une maladie qui nous est venue d'ailleurs, arrivée en RDC le 10 mars 2020. C'est une maladie qui vient de l'étranger. Dans le concept général, il était important que nous fassions d'abord la pédagogie la maladie. Expliquer aux gens que cette maladie existe, que cette maladie a des conséquences qui peuvent être mortelles et avec une conduction à pouvoir même parler de la vaccination et de l'intérêt de la vaccination. Donc maintenant que les gens sont conscients que cette maladie existe, parce que les cas sont de plus en plus fréquents, les cas sont visibles dans toutes les couches de la société, nous allons continuer notre travail de pédagogie pour expliquer l'intérêt d'être suivi et de se faire vacciner. C'est vrai que les mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires, la population a difficile à suivre. Mais maintenant, c'est le rôle du gouvernement, tant au niveau central qu'au niveau des provinces, que de faire un effort pour communiquer. Parce que la pédagogie de la communication est importante, la sensibilisation, pour que les gens comprennent. Nous ne pouvons pas baisser les mesures pour les baisser simplement parce que les chiffres baissent. Nous allons baisser les mesures si tous les indicateurs nous poussent vers une tendance à baisser les mesures. Nous avons pris quelques mesures, fermer les bars, fermer les boîtes de nuit, diminuer les fréquentations de certaines activités. C'était tout ça pour diminuer la circulation du virus. Parce qu'une journée entière comporte 24 heures. Quand vous réduisez le temps de la journée en moins de 16 heures, par exemple, ben vous diminuez le temps de contact entre les personnes. Le coronavirus, le COVID-19, est une maladie qui se propage que par proximité, par postillon, par les gens qui crachent et qui parlent entre eux de près. Mais quand vous évitez la circulation, vous évitez que les gens fréquentent les endroits où on peut se parler ou se fréquenter de près, nous diminuons directement la circulation des virus. Et ça a eu quand même pour conséquence de diminuer les cas. En tout cas, à Kinshasa, ça s'est vu, mais maintenant, dans l'arrière-pays, les cas sont en augmentation, les mesures étaient moins suivies, tout le monde se l'accorde. Je suis d'avis qu'il faut absolument faire le suivi de manière à ce que les mesures soient respectées, mais également avoir la capacité rapide de diagnostic et avoir la capacité de traiter rapidement les cas qui sont détectés positifs et qui demandent un traitement.
Monsieur le ministre, puisque vous parlez de l'arrière-pays, on va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis la province du Kasaï central, qui a un point de vue à donner par rapport à cette flambée des cas Covid dans les provinces.
Maître Alidor Mampia, avocat au barreau du Kasaï central, se trouvant dans la ville de Kasaï. La flambée des cas de contamination et décès suite au Covid-19 est un phénomène réel dans beaucoup de provinces de la RDC, y compris le Kasaï central. Alors qu'à Kinshasa, autrefois épicentre de la pandémie, il y a tendance à la baisse, alors qu'au niveau des provinces, il y a escalade. Cette situation se justifie d'une part le non-respect des mesures barrières instituées par les autorités, la léthargie de ces autorités politico-administratives et sanitaires dans le suivi des mesures barrières instituées, la promiscuité et mélange des malades de COVID-19 et malades ordinaires dans des hôpitaux, tant publics que privés, le mélange des cadavres de COVID-19 et des malades qui sont morts suite aux maladies ordinaires au niveau des morgues, un nombre important de membres de famille des morts au niveau des morgues et aussi au niveau des cimetières, C'est comme ça que cet état de choses macabre mérite l'attention de tous en renforçant les capacités des corps soignants, en dotant les hôpitaux de matériel didactique adéquat et aussi en sensibilisant la population. C'est à ce niveau-là qu'on peut tendre à atteindre aussi la situation de Kinshasa pour atteindre la baisse des cas de COVID-19. Sinon, on pourra insister à l'hécatombe.
Monsieur le ministre, brève réaction.
Ben, d'abord, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire votre auditeur. Tout un chapelet des revendications ou des choses qui sont connues. Alors même très bien connues, c'est à cause de la baisse du respect.
Qui sont connues, mais pourquoi il n'y a pas d'amélioration?
Pardon?
Des choses qui sont connues, mais pourquoi on n'améliore pas? Pourquoi il n'y a pas d'amélioration? Pourquoi?
Ben, c'est ce pourquoi nous sommes en train de dire. Au niveau du gouvernement, nous rappelons régulièrement tout ce qui a été dit. La prise en charge, et là, je peux vous dire qu'au niveau de la riposte, la division provinciale, en tout cas pour le Kasaï central, et pour le Kasaï, pour le Haut-Katanga, le Lualaba, Goma, Bukavu, toutes les mesures sont prises pour appuyer les divisions provinciales de santé. Également, les partenaires qui nous sont classiquement en aide, j'ai cité l'OMS, MSF avec qui nous sommes en réunion, pour pouvoir appuyer. Parce qu'au-delà de traiter, il faut prévenir. Et la prévention, c'est de la communication et la sensibilisation. Donc les autorités administratives prennent leurs responsabilités à la hauteur du problème, elles communiquent. Les autorités politiques à Kinshasa, que nous sommes assurant de suivi, avant des contacts pour pouvoir pallier à ça. Ce qui a été dit, personne ne le nie, mais nous vous rassurons que des dispositions sont prises pour pouvoir alléger la situation de détresse sanitaire de notre population.
Merci, monsieur.
C'est le
vœu
de notre gouvernement.
Merci, monsieur le ministre. On vous garde encore dans cette émission le temps de donner la parole au professeur Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé de la province du Haut-Katanga. Monsieur le ministre provincial, quelle est la situation aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga?
Merci, madame journaliste. La situation au Katanga est inquiétante, comme le ministre national l'a dit, dans certaines provinces. Donc nous sommes la troisième province la plus touchée après Kinshasa et le Nord Kivu. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 3590 cas cumulés avec pratiquement 75 décès depuis le début. Mais ces statistiques sont officielles seulement puisqu'il y a une preuve biologique de positivité. Mais au niveau communautaire, il y a des gens qui décèdent et d'autres qui font la maladie mais qui ne consultent pas les structures de santé. La vérité est que le virus circule activement et nous connaissons un diagnostic en moyenne jusqu'à avant-hier de 64 cas par jour et aujourd'hui la tendance est un peu plus à la baisse avec 54, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Les hôpitaux sont pleins de malades et l'oxygène à un certain moment parvient à poser problème par rapport à la demande des hôpitaux. C'est comme ça que vous nous avez vu avec le gouverneur de province visiter quelques usines, notamment sous Trafer, pour accroître la production en oxygène. Par rapport à la prévention et au contrôle de l'infection, il y a vraiment des efforts qui sont fournis tant par le niveau national que par le niveau provincial. Mais il faudra aussi noter que nous avons renforcé, n'est-ce pas, les mesures par les instructions du gouverneur qui a instruit tous les maires de ville, les administrateurs des territoires et de toutes les entités territoriales à pouvoir appliquer ces mesures et les faire respecter par la population.
Monsieur le ministre, excusez-moi, nous avons encore
besoin du soutien du niveau national puisque les efforts sont faits par la province. Le niveau national nous soutient par rapport n'est-ce pas, aux équipements de protection individuelle et tout, mais les équipes ont besoin d'être motivés et la province fait sa part et on a aussi besoin du soutien du niveau national.
Vous avez suivi le ministre national a promis que les provinces seront soutenues par le gouvernement. Le gouvernement provincial a pris des mesures contraignantes pour lutter contre le coronavirus dans la province. Pourquoi attendre que la situation s'empire pour prendre ce genre de mesures, monsieur le ministre provincial? On pouvait éviter cette flambée des cas dans la province du Haut-Katanga si ces mesures avaient été prises bien avant?
Les mesures ont toujours été permanentes puisque c'est le niveau national qui édicte les normes en matière de santé et le comité national multisectoriel a présenté à la présidence un certain nombre de mesures qui ont été promulguées par la primature et donc dans le journal officiel et le chef de l'État a parlé. Alors les gouverneurs ne gère pas des provinces comme en électeaux libres. Il se réfère aux mesures prises par le niveau national. Bien sûr qu'il y a des spécificités par rapport aux provinces. Donc une province ne peut pas se réveiller et dicter des mesures qui vont à donc qui dépassent les compétences du niveau provincial. C'est avec l'évolution maintenant de la situation que notre gouvernement a alerté et a eu aussi l'aval du niveau central pour vraiment prendre des mesures encore plus contraignantes. Donc c'est en rapport avec l'évolution de la situation, puisque dans la gestion d'une pandémie comme celle-ci, c'est plus les indicateurs qui doivent motiver la prise de décision. Donc il y a une inconscience collective et le ministre national l'a souligné et les gens ne croyaient pas à la grande virulence de cette troisième vague et les Africains en général et nous Congolais on pensait que nous étions plus protégés et que les dégâts ne pouvaient pas être si lourds que nous le connaissons et il y avait une inconscience malgré la sensibilisation des équipes. Maintenant que les gens, puisque chaque jour les gens demandaient, mais nous n'avons jamais vu des cas de Covid, on n'a jamais vu des cadavres de Covid, mais maintenant que presque 5 maisons dans le quartier sont endeuillées et que les gens se rendent compte, et donc les mesures prises par le gouvernement viennent vraiment renforcer, et je pense que ça va beaucoup nous aider.
Alors,
mais il y a aussi une spécificité par rapport à notre province, puisque nous sommes ouverts à l'Afrique australe, et nous n'avons jamais cessé de le dire, même dans ces émissions, qu'il faut que les frontières puissent être davantage sécurisées en exigeant, puisqu'il y a des preuves palpables que les gens se font tester et ils parcourent deux pays et entre-temps, surtout pour les camionneurs, c'est pas comme par avion, mais pas pour les camionneurs, ils transitent dans plusieurs pays. Est-ce qu'il faut aujourd'hui considérer la validité d'un test PCR réalisé en Afrique du Sud ou au Zimbabwe alors qu'on est passé par d'autres pays et on s'est arrêté, on a eu des contacts en Zambie et tout ça. C'est à cela que nous avons toujours demandé que aux frontières où il y a des mouvements pendulaires comme à Kasumbalesa, à Mokambo, que le testing obligatoire à l'entrée sur le sol congolais soit renforcé pour nous éviter des importations dont le ministre national a fait allusion.
Et
nous sommes une province économiquement importante et on a besoin de vite contrôler cette flambée pour que nous ne puissions pas asphyxier et la province et le pays. C'est à ce titre que nous demandons le soutien encore en termes, que ce soit matériel, même financier, pour faire face à cette vague.
Monsieur le ministre provincial, vous avez parlé des tests aux frontières. Est-ce que c'est les passés qui sont en train de se faire? Lorsque les voyageurs arrivent en RDC, il y a un test qui est exigé à tous les voyageurs.
Oui, à tous les voyageurs, les tests c'est font. Surtout dans les aéroports, ça ne pose pas de problème. Mais chez les camionneurs qui entrent, Lorsqu'on exige la PCR, il y a des révoltes, et pour ne pas bloquer sur le plan économique le pays, à un certain moment, on a été obligé de nous référer à leur document de départ, alors que nous devons vraiment faire le testing à l'entrée, surtout aux frontières, tout en tenant compte du délai d'attente, puisque c'est des camionneurs qui, c'est un import-export, c'est différent de quelqu'un qui vient par avion puisqu'il n'a pas de marchandises et tout ça. Donc c'est toutes ces questions et nous sommes en pourparler avec le niveau national. Le ministre de la Santé connaît cette situation puisque j'ai fait 2 voyages sur Kin pour que le gouvernement central, à défaut de faire payer au niveau périphérique, subventionne des machines PCR et tout ça, et pour que les testings se fassent, ou alors qu'on réduise le prix, mais qu'on subventionne en entrant pour permettre à ce que tous ces camionneurs transitent par et fassent un test à l'entrée. Et pas de tests antigéniques, puisque la plupart sont asymptomatiques, et que les tests antigéniques soient réservés aux hôpitaux, aux malades symptomatiques.
Monsieur le ministre, il y a un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi. On va le prendre pour vous.
Je m'appelle Dieudonné Bangéfi. Je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette flambée des cas de COVID-19 est due non seulement au relâchement par la population de l'observance des mesures barrières, mais aussi et surtout à la négligence des autorités du pays par rapport à la gestion de cette pandémie. C'est irresponsable de leur part d'attendre qu'il y ait augmentation des cas pour qu'elles se réveillent du profond sommeil. Et voilà aujourd'hui, déjà à Lubumbashi par exemple, nous décrions des pertes en vies humaines. Moi je pense à mon humble avis que si nos autorités n'ont pas la notion de prévention, rassurez-vous que nous passerons des vagues en vagues sans une solution adéquate, car l'homme prudent voit le mal de loin, dit-on. Nous, population, à notre tour, nous devons également apprendre à vivre avec la maladie, à l'exemple du paludisme, de la fièvre typhoïde, et j'en passe le meilleur.
Monsieur le ministre, brève réaction.
Madame le journaliste, il a un versant où il n'a pas analysé. Vous savez que nous sommes parmi les premières provinces même dans ce pays à avoir alerté la population, avoir sensibilisé, avoir créé des centres d'isolement sur l'ensemble de la province. Mais je vous donne juste l'exemple, puisque le ministre national a parlé, la vaccination est l'un des piliers dans la lutte contre une maladie comme celle-ci. Mais imaginez-vous, il y a des doses de vaccins qui ont périmé ici. Quand on disait aux gens de se faire vacciner, et nous avons sensibilisé, puisqu'après Kinshasa, notre province est la deuxième en termes de nombre de vaccinés. Donc nous avons tout fait, et c'est plus les expatriés qui acceptaient vite le vaccin. Et ça, ce n'est pas la faute aux autorités. Et donc nous avons sensibilisé, et nous nous sommes fait vacciner publiquement, mais les gens se fiaient plus aux rumeurs. Nous avons travaillé avec la presse. Mais c'est quand nous sommes tombés, le pays est tombé en rupture, que nous recevons les appels avec la flambée, maintenant que les gens acceptent le vaccin. Donc il ne faut pas qu'on puisse rejeter la responsabilité sur les seules autorités. La plus grande part des responsabilités revient à la population qui ne croyait pas à l'existence de la maladie, malgré les multiples sensibilisations, que ça soit au niveau national, que ça soit au niveau provincial. Donc, mais je suis aussi d'accord avec lui quand il dit que la population, maintenant qu'il y a des dégâts, la population vit. Imaginez-vous, nous pensions que cette conception pouvait être plus l'apanage des non-intellectuels, mais il y a eu dans le forum même des grands intellectuels qui faisaient circuler de fausses informations, que les vaccinés mourront après autant de temps, que les vaccinés, il y avait des magnétismes, que les téléphones collés et tout ça. Alors que maintenant, les gens commencent à réclamer le vaccin. Donc, je crois que c'est plus l'ethnoculture, puisque la maladie étant culturellement construite, et les gens, tout le monde doit s'expliquer, et c'est à peine maintenant...
Merci. Monsieur le ministre, on va vous redonner la parole. Emmanuel Bitangalo, vous êtes secrétaire exécutif provincial de la Société civile santé du Nord Kivu. Comment vous analysez cette évolution de la troisième vague de COVID-19 en RDC?
La troisième vague de COVID dans notre province du Nord Kivu est justifiée par le fait que, d'abord, c'est après le mois de décembre 2020, nous étions la troisième province qui a enregistré beaucoup de cas. Mais arrivé à partir de janvier-février, on a vu notre province passer maintenant à la deuxième province, donc par rapport à la province de Congo central. Alors, les montées des cas là, d'abord, il y a eu au mois de mars l'éruption volcanique. Pendant cette période-là de l'éruption volcanique, les gens ont pris fuite dans plusieurs directions sans aucune mesure de protection. Ça, c'est une des raisons également qui a fait monter quoi les cas de COVID. En dehors de ces cas-là, il y a aussi la porosité de nos frontières. Les Rwanda et l'Ouganda, à un certain moment, ils ont enregistré beaucoup plus de cas par rapport à notre pays. Et alors, arrivé au niveau des frontières, les contrôles sont tellement faibles, mais aussi il y a beaucoup plus de passes partout là, au niveau des frontières, où on n'a aucun contrôle. Et les gens entrent comme ils veulent. Mais cependant, quand nous voyons ici chez nous, il y a beaucoup plus de cas, quand c'est de l'autre côté où il n'y a pas beaucoup plus de cas, là, ils essaient de renforcer les mesures de contrôle au niveau des frontières, mais ici chez nous, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la deuxième difficulté par rapport à ça. Mais aussi, il n'y a pas de mécanisme de suivi des mesures prises par les autorités. Les autorités prennent beaucoup de mesures, et des mesures qui sont sanitaires, qui sont bonnes, mais aucun mécanisme de suivi de ces mesures-là. Ils parlent, par exemple, de 20 personnes dans les réunions. Est-ce qu'ils font le suivi de ça? Jamais. Pendant la nuit, quand il y a des cérémonies de mariage, on trouve toujours les salles qui sont pleines, aux vies et aussi de toutes les autorités. Et quand ils essaient de traquer certaines des populations par rapport à ça, c'est les renseignements maintenant qui se manifestent. Et en dehors de ça, il y a un problème aussi de suivi des malades qui sont en quarantaine au niveau de la maison. C'est-à-dire, lorsqu'il y a certaines personnes qui sont testées positives, et qu'ils doivent rester à la maison en quarantaine, le suivi est tellement faible. Et ce suivi-là décourage même d'autres malades qui sont à la maison, même ces mêmes malades-là qui déambulent n'importe comment et qui peuvent d'une manière ou d'une autre contaminer d'autres personnes. Il y a eu aussi, pendant l'arrivée du chef de l'État dans notre province, on a surtout en ville de Goma ici, après son départ, on a compris qu'il y a ici une flambée de cas pendant cette période-là où, pour le moment, on assiste à des hôpitaux qui sont submergés. Il y a beaucoup de malades, des hôpitaux commencent même à chasser les malades et les morgues ici chez nous, c'est vraiment catastrophique.
Votre ligne pose problème, monsieur Bitangalo. La réalisation va essayer de vous rappeler pour voir comment on peut améliorer la ligne. Et entre temps, il y a ces auditeurs qui n'arrêtent pas d'appeler sur notre standard. On va prendre cet auditeur, Jonas, qui nous appelle depuis Oicha, dans la province du Nord-Kivu.
Jonas Kambale depuis Oicha, au Nord-Kivu. La situation actuelle de la troisième vague de COVID-19 est inquiétante car les structures car les structures sanitaires éprouvent d'énormes difficultés, ce qui doit attirer l'attention du gouvernement le plus rapidement possible à répondre aux besoins des hôpitaux, répondre aux revendications des personnels soignants, mais aussi prendre des mesures pouvant permettre à réduire le plus rapidement possible les taux de contamination, tout en suivant de près l'application des mesures. Toutefois, je souhaite qu'une étude soit faite afin de comprendre si pourquoi il y a relâchement des gestes barrières.
Docteur Jean-Jacques Mbungani, est-ce que vous êtes avec nous? Je crois que le ministre de la Santé publique du gouvernement central est parti. Il nous avait prévenu qu'il aurait une réunion. Emmanuel Bitangalo, vous êtes là?
Oui, je vous suis.
Vous avez suivi cet auditeur qui nous a appelé de Oicha, qui brosse un peu l'état dans lequel se trouvent les hôpitaux, les structures sanitaires aujourd'hui dans la province du Nord Kivu. Il vous rejoint un peu dans ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, même à l'heure où je vous parle, les infirmières vont se porter des morts qui vont...
Monsieur Bitangalo.
Les hôpitaux sont submergés, comme l'a dit l'auditeur tout de suite là. Cela ne va pas vraiment surprendre les gens, car lorsqu'on trouvera encore beaucoup plus de cas, parce que les infirmiers dans la ville, disons, dans la province du Nord Kivu sont en grève. Après les médecins qui étaient en grève, c'est maintenant depuis avant-hier que les infirmiers sont en grève. Tout ça sont des causes, et vous vous souvenez quand même à l'époque de l'Ebola.
Monsieur Bitangalo, votre ligne est vraiment en train de se détériorer là. La réalisation va essayer de vous rappeler pour voir dans quelle mesure on peut améliorer la ligne. Ou si vous avez notre numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre, vous le donnez à notre réalisateur pour qu'il vous rappelle. Alors, monsieur le ministre provincial, vous avez pris des mesures contraignantes au niveau de la province du Katanga, mais il y a cette Asbel qui pense que l'emprisonnement de 7 jours, tel que préconisé par le maire de Lubumbashi, n'est pas conforme à la loi. Est-ce que ce n'est pas trop fort comme mesure?
C'est du ressort des OPJ et des juristes. Moi, je reste dans le secteur purement santé. Ça, c'est des mesures des autorités politico-administratives. Donc, nous sommes des conseillers en matière de santé et de gouvernement et nous donnons l'ampleur du problème. Et donc, les arrêtés urbains et tout ça, c'est par rapport à tout ce qu'il y a comme ampleur du problème tel que présenté par nos services. Donc, je crois que je ne peux pas, moi, discuter sur la durée puisque la procédure judiciaire, elle est connue par les OPJ et les hommes de droit, mais nous présentons l'ampleur du problème.
Pas seulement la durée, monsieur le ministre provincial, mais l'emprisonnement même.
Les contraintes autres, puisque vous savez que sans contrainte, il y a certaines personnes, c'est la majorité malheureusement de notre population, sans contrainte, il n'y a pas de respect des mesures. Donc l'État, puisque la force revient à l'État de protéger la population, c'est de prendre des mesures qui contraignent les gens à respecter cela. Donc dans un système d'anarchie, les gens ne vont pas respecter cela. Et le pouvoir de l'État de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent pour casser, puisque non seulement qu'il y a des cas positifs qu'on doit traiter, mais on doit casser la chaîne de transmission. Il faudrait que ces gens-là qui d'habitude enterrent par milliers puissent s'habituer aujourd'hui qu'il y a des mesures qui concernent les morgues où il faut un maximum de 20 personnes et des morgues jusque directement au cimetière sans faire des cérémonies funéraires en plein espace aménagé et tout ça, puisque c'est là qu'il y a des contaminations massives.
Monsieur le ministre, puisque la sensibilisation doit être continuelle, qu'est-ce que vous dites à toute cette population du Haut-Katanga qui vous suit ce soir sur Radio Okapi par rapport à cette pandémie?
Oui, nous disons à toute la population du Haut-Katanga que la maladie, comme nous l'avons toujours dit, en temps de baisse, tout comme en temps de flambée, la maladie est toujours là. Et j'ai aimé d'ailleurs l'analyse de cet auditeur de Lubumbashi qui a dit nous devons apprendre à vivre de la même manière que nous avons des moustiquaires pour nous protéger contre la malaria, qui est une maladie pratiquement endémique. Nous devons apprendre à vivre avec la Covid, mais en prenant des précautions pour ne pas nous infecter. Donc nous sensibilisons et nous disons à la population que nous connaissons une flambée, que ça soit maintenant ou après cette flambée, que la population sache se protéger. La protection exige qu'on se protège soi-même, qu'on protège aussi les autres, qu'on limite les mouvements pendant ce temps de flambée. Si vous n'avez pas affaire au centre-ville, autant ne pas y aller et rester à la maison. Vous n'allez que pour des objectifs bien précis au marché, au supermarché, mais prenez votre masque. Ayez sur vous un gel hydroalcoolique ou de l'alcool et évitez de vous attrouper. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, puisqu'il y a des restrictions par rapport à ça, et que les gens comprennent que dans la lutte contre cette pandémie, il y a le vaccin qui constitue un élément important. De la même manière que le monde entier et notre pays, nous avons dû éradiquer certaines maladies comme la variole et d'autres, c'est par la vaccination. Donc il faut que les gens comprennent que la vaccination est importante et que, couplée au respect des mesures barrières, nous allons bien contrôler cette pandémie ensemble et que la lutte n'est pas que faite par le personnel de santé, la lutte est multisectorielle. C'est certes un problème de santé, mais tous les secteurs de la vie nationale et même provinciale doivent s'investir pour lutter ensemble.
Merci, professeur Joseph Sabi.
Nous demandons aussi à la population, une fois vous avez des signes de la maladie, ce n'est pas à vous de vous traiter et de dire ce n'est pas la COVID, c'est la malaria, c'est autre chose. C'est aller au centre le plus proche pour qu'on vous passe les tests et qu'on vous dise c'est la COVID ou pas. Puisque le plus tôt vous commencez le traitement, et plus vous avez de chances de vous en sortir qu'arriver à l'hôpital avec une désaturation et que vous soyez mis sous des machines, et là, les chances de guérison deviennent hypothétiques.
Merci, professeur Joseph Sambi, ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga. Emmanuel Bitangalo, qu'est-ce que vous proposez pour faire baisser cette flambée des cas dans la province du Nord Kivu?
Oui, la première des choses, c'est que les autorités en place puissent mettre les mécanismes pour les suivis des mesures déjà édictées par elles-mêmes. Parce que les mesures là semblent être bonnes, mais il n'y a pas de mécanisme de suivi. Par exemple, dans les véhicules, dans les transports en commun, où on voit quatre personnes sur les sièges, par exemple, au niveau des frontières, comme j'étais en train de le dire, ils doivent aussi essayer de renforcer les contrôles au niveau des frontières, même des petites frontières, là où la population d'autres pays essaie de s'éclipser pour entrer dans notre pays de façon clandestine. Ils doivent faire le suivi, parce que de l'autre côté, on ne blague pas. Quelqu'un qui quitte ici pour aller là-bas, on les contrôle d'abord, et après les contrôles, on essaie encore de faire de l'examen, donc les tests. Mais ici, chez nous, lorsque quelqu'un entre, les tests, on ne les fait pas, et on fait de faire de la blague au niveau des contrôles. On ne prend pas vraiment les choses au sérieux. Donc, ils doivent prendre les choses au sérieux par rapport au déplacé, c'est-à-dire au déplacement, au mouvement de la population migratoire.
Mais Emmanuel Bitangalo,
il y a aussi à un certain niveau une certaine négligence de la population causée effectivement par les réseaux sociaux. La population n'accepte pas, et surtout que l'approche de notre système de santé ne prévoit pas vraiment à responsabiliser la population et la gestion des épidémies. Ça ne prévoit pas vraiment ça. La gestion des épidémies se fait au niveau des autorités sanitaires elles-mêmes, et alors c'est ce qui fait en sorte que la population ait des négligences par rapport à ça. C'est aussi une chose parce qu'ils ont suivi les mesures édictées par les autorités, mais certaines d'entre elles ont fermé les oreilles. C'est maintenant, aujourd'hui, quand ils sont en train de voir que là, maintenant, beaucoup de dégâts, beaucoup de décès, où la plupart maintenant sont en train de prendre des dispositions par rapport aux mesures barrières.
Merci Emmanuel Bitangalo. Un dernier mot peut-être pour conclure.
Bon, pour conclure, notre souci, c'est vraiment de renforcer les contrôles au niveau des frontières. Ça, nous insistons beaucoup. Mais aussi, nous voudrions souligner un point par rapport au COVID des voyageurs. Ici, au Nord Kivu, on paie $40, pendant que dans d'autres provinces, on paie $30. À un certain moment, ça essaie aussi de décourager les voyageurs. Mais aussi, au niveau de la population, nous lançons un appel, comme nous l'avons toujours fait, pour essayer de sensibiliser cette population-là, de prendre au sérieux cette maladie-là. Vraiment chacun se protéger et protéger aussi son environnement.
Merci beaucoup Emmanuel Bitangalo, secrétaire exécutif provincial de la Société Civile Santé du Nord Kivu. Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation et la présentation de cette émission. Guimaté Donamadimba, sous la supervision de Martin Seboujangwe. Sylvain Matundu était à la prise de son, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.